commence l'émission. Music and lore. Avec Raymond Tatin. Musique Nol n'est pas seulement qu'une émission de radio, c'est aussi une association qui organise des manifestations, concerts, one-man show, théâtre, pour vous faire découvrir des artistes de la région, mais aussi de toute la France et de l'Europe. Nous avons la chance d'avoir notre parrain, qui est Simon Fage, depuis la création de l'association. Bienvenue dans votre émission.
Chers auditeurs, votre mission, si vous l'acceptez de l'entreprendre, sera d'écouter cette émission et de vous divertir. Si vous veniez à être pris en train de nous écouter, nous serions dans l'obligation de vous remercier chaudement. Cette bande ne s'autodétruira pas dans les 30 secondes. Je suis avec Marc Le Serre. Alors ici, vous êtes, pour faire des dédicaces, vous êtes doubleur de voix dans des dessins animés, dans des films, dans des feuilletons. Vous avez d'ailleurs fait dans Friends. Bonjour déjà.
Alors bonjour, ça va bien?
Moi ça va, et vous depuis ce matin?
Non, ça va bien, ça va bien. Les gens sont très accueillants et puis j'aime bien venir. Donc là, on est en Belgique hein, pour ouais. Dire aux auditeurs, l'accueil est toujours hyper chaleureux.
En France aussi, dans le Nord hein.
Non, en France aussi, dans le Nord. Non, mais j'aime bien venir dans le Nord. À l'autre tout de suite. Non, mais j'aime bien. Et puis, plus particulièrement, moi, j'ai pas à me plaindre. Je suis plutôt bien accueilli partout, en fait.
Vous avez commencé le doublage quand ?
Alors moi, j'ai commencé le doublage très très jeune. Alors évidemment, bon, moi je suis comédien et musicien. Et en fait, j'ai une histoire un petit peu particulière. Je vais la faire un peu courte.
On a le temps, moi j'ai le temps. Vous, je sais pas, mais moi j'ai le temps.
moyen, je crois. Mais on va dire que j'ai commencé tout gamin, en fait. Mon premier doublage, c'est le chat Berlioz dans Les Aristochats.
Oh, Berlioz, s'il vous plaît, chérie, installez-vous. Faites-moi plaisir, chantez votre chanson.
Oui, maman. Si nous voulons chaque jour les pratiquer, nous verrons nos progrès vite encouragés. Do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, fa, la, do, répétons nos gammes et nos arpèges.
J'avais 7 ans, 7-8 ans, c'était en 1970.
On a le même âge, je crois.
On regardera sur vous regarderez sur Wikipédia. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que j'allais à l'école des enfants du spectacle à Paris, qui est une école à mi-temps, qui est organisée comme ça pour les enfants qui ont des activités extrascolaires assez prenantes. Et moi, j'étais au conservatoire de musique, en fait. Mais il y avait des castings, il y avait des metteurs en scène qui venaient. Donc, j'ai commencé à faire du théâtre, j'ai commencé à tourner des films. Des séries d'ailleurs aussi. Et puis on m'a demandé, enfin on a demandé à mes parents de m'amener faire un essai un jour. Et je vais dans un studio qui ressemblait vraiment à un petit cinéma. Il y a trois petits chats qui apparaissent à l'écran et c'était les Aristochats de Disney. Et c'est mon tout premier doublage. Je fais Berlioz et j'ai vraiment énormément de chance parce qu'en plus c'est la même version qui continue à être diffusée parce qu'ils ont réussi à la numériser, etc. Donc c'est assez rare. Et quelques années après, j'ai fait aussi le Pinocchio de Disney, où je fais Pinocchio.
Alors à cet âge-là, c'est pas compliqué pour la première fois de faire du doublage ?
Alors non, c'est pas compliqué parce que c'est hyper ludique. Et puis quand t'es gamin, c'est un jeu. C'était voilà. Puis moi, je découvrais un peu la comédie, tout ça. J'étais en fait très timide gamin, donc je pense que c'était une façon aussi de m'exprimer, de me libérer. Et puis il faut dire que je lisais pas bien le français encore parce que ma mère était chanteuse, on voyageait dans toute l'Europe, donc je parlais anglais, je parlais allemand parce qu'on a beaucoup habité en Allemagne, et je parlais bien français, mais je le lisais mal. Donc j'apprenais les phrases par cœur en fait. Et on me tapait sur l'épaule quand il fallait que je dise mes phrases, que je joue mes phrases. Donc c'est un très très beau souvenir. J'ai énormément de chance d'avoir pu participer à ces doublages-là pour commencer.
Après, quand on fait du théâtre ou la comédie, peu importe, souvent c'est parce qu'on est timide ou parce qu'on a eu un parcours qui fait qu'on s'est dit « allez, on y va, on se lâche ».
On est beaucoup en fait à dire « ah, j'étais hyper timide quand j'étais gamin ». Et oui, c'est libérateur, ça t'apprend à parler mieux. Il y a des techniques de base au théâtre que tu apprends, comment respirer, tout ça. Après, je me suis mis au chant, donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Mais ta voix devient finalement ton outil de travail. Et faire du théâtre, par exemple, c'est la base. Hein. Parce que ça te permet de maîtriser aussi ton articulation, ton élocution, placer ta voix, pas fatiguer ta voix aussi. Et au doublage, on a besoin de tout ça. Même si on a besoin de... On n'a pas besoin que de belles voix. On a besoin d'un tas de voix différentes, un tas d'élocutions et de timbres différents. Mais être à l'aise avec toutes ces techniques, c'est bien. Quand les gens nous demandent d'ailleurs souvent comment je fais pour faire du doublage, on dit faut être comédien déjà. Et le théâtre, même si tu n'en fais pas beaucoup, prendre des cours, c'est déjà pratiquer tout ce qui est technique. Voilà. Et puis aussi savoir raconter une histoire, savoir interpréter un personnage.
On va remonter encore un peu plus haut, enfin plus loin je vais dire. Ouais, mais tu m'as dit un truc intéressant. Tu faisais de la musique, tu jouais de quoi ?
Alors moi, je suis chanteur et puis je joue un peu de guitare.
D'accord. Classique ?
J'ai essayé classique, j'étais pas très doué pour le classique. J'avais des petits doigts boudinés, ça faisait mal. Mais après, j'ai fait beaucoup de folk, en fait, et puis je me suis mis à écrire des chansons. Et je continue d'ailleurs, j'ai toujours fait ça toute ma vie, en fait. Je suis pas du tout connu pour ça. J'ai jamais rien fait qui ait réellement marché, mais j'ai toujours continué à faire de la musique.
On ne peut pas dire ça, parce que le fait de vivre de sa passion, c'est déjà énorme, c'est le fait d'avoir réussi.
J'ai été intermittent quasiment toute ma vie. Je viens d'une famille quand même d'artistes, je peux dire ça. Je suis hyper reconnaissant d'avoir pu en vivre plus ou moins bien toute ma vie. Et là maintenant, je travaille moins, mais je travaille encore un petit peu, tout va bien. Et j'ai eu énormément de chance parce que je suis quelqu'un, j'adore mon métier, j'ai fait plein de choses différentes dans ma vie, dans mon métier, mais je ne suis pas du tout un ambitieux, quoi. Et j'ai quand même une très bonne étoile, je dois dire.
Il suffira d'un signe, un matin tout tranquille et serein. Quelque chose d'infime, c'est certain. C'est écrit dans nos livres en latin. Un matin tout tranquille et serein, plus de faim, de fatigue, des festins, de miel et de vanille et de vin.
Non, non, mais ce qu'il faut surtout, c'est se sentir à sa place, je crois, tout bêtement. Et puis, c'est la rencontre avec les gens. Peut-être que j'ai eu un peu de chance. Je pense qu'il y a du boulot aussi, parce que j'ai quand même travaillé, appris, fait ce que j'avais à faire. J'ai commencé à jouer la comédie très jeune, mais quand j'étais un jeune adulte, quand tu es jeune, tu joues très spontanément. Puis j'ai pris un peu d'expérience, parce que j'avais tourné des films, tourné des séries, fait du doublage gamin. Donc j'avais pris un peu d'expérience pour tout ce qui était technique. Mais quand j'ai été adulte, je suis retourné à la fac. J'ai raté l'entrée au conservatoire. J'étais un peu trop âgé, puis j'étais pas du tout dans le style de ce qu'ils prenaient à l'époque. Conservatoire de comédie, donc là. Et du coup, je suis allé à la fac, à Paris 8, à Paris, là, et j'ai fait des études, histoire de l'art, option théâtre, audiovisuel. J'ai bossé des choses techniques, j'ai fait de l'impro. Je me suis posé les questions que tu te poses après, quand tu es adulte, pourquoi on joue la comédie, comment, qu'est-ce qui se passe, etc. Des questions que tu te poses pas quand tu es gamin.
Ah, tu t'as fait psy aussi alors?
Ah, psy, pas du tout. Mais ça, c'est l'ambiance d'une génération. Je suis désolé, ouais, ça fait un peu analyse ce que je suis en train de dire. Mais alors, ça, c'est les gens de ma génération, je dirais. Parce que c'était quand même ce qui était très à la mode. C'est pas tellement psy, on appelait ça, c'est quoi? C'était sciences humaines plutôt. Voilà.
C'est générationnel. Est-ce qu'il y a un personnage que tu as doublé et qui, à un moment, bah, c'était plus ta voix, c'était quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est arrivé, ça?
Ah, que tu sois remplacé en cours de route? Ouais. Bah alors, c'est arrivé certainement sur plusieurs séries, mais ça date d'une certaine époque, et notamment une certaine boîte, enfin un studio, qui s'occupait de doublage et qui s'en foutait un peu de qui faisait quoi. Et où on s'est retrouvé parfois, ah t'es pas libre, ok tu peux pas venir, bon bah c'est pas grave, on mettra quelqu'un d'autre quoi. C'est plutôt ambiance comme ça. Moi je fais partie de l'équipe de Dragon Ball, et de temps en temps je crois qu'il y a mon petit frère qui faisait un petit peu de doublage à l'époque, David, qui m'a remplacé sur un ou deux trucs. Et puis il y a William Corrine, des fois on me dit, ah sur Trunks, il y a un épisode là, c'est William Corrine, parce que genre j'étais pas là ou trop loin du studio, il voulait absolument faire cet épisode là. Et en fait, ils s'en foutaient de savoir s'il y avait des gens qui regardaient. Et si ça les gênait, quoi?
C'est perturbant quand même.
Non, mais c'est perturbant. Après, voilà. Mais il faut savoir aussi que c'est une période, c'est une époque où, d'abord, le doublage, notamment dans notre métier, était moyennement bien vu, on va dire. Il n'y avait pas ce contact avec le public qu'on a maintenant. Je sais que pour les plus jeunes, c'est difficile à imaginer. Mais il n'y avait pas de réseaux sociaux, mes petits-enfants, ok? On avait des téléphones avec des fils.
Oui, et puis le doubleur, à part sur l'écran de télé à la fin, en tout dernier, on ne savait pas qui c'était. Hein.
À l'époque, on ne mettait pas nos noms. Ça a été les syndicats, à un moment, on s'est mobilisés pour demander à ce que quand même on soit reconnu, qui est nos noms au générique, etc. C'est venu un peu plus tard. Tu avais de temps en temps les noms au générique quand c'était des grands films cinéma. Parce que tu avais quand même des acteurs de la comédie française, comme Bernard Deran, tout ça, qui faisaient, il doublait, je me rappelle très bien, c'était David Niven. Bon, lui, il avait le droit à voix de David Niven, Bernard Deran, de la comédie française, tu vois, etc. Et puis c'était des grands films ciné, il y avait des moyens de refaire aussi un générique, quoi.
On a quand même eu des grands noms dans le doublage. Hein. Je pense à Micheline Dax, rien que Starsky Hutch, Balutin et puis...
Francis Lax, Roger Carrel. Moi, Roger Carrel, c'est un des premiers que j'ai rencontré, donc, puisqu'il était dans Les Aristochats. Hein, il fait la petite souris Roquefort. Et c'est le premier que j'ai rencontré comédien vraiment de ce niveau-là. Et en plus, il était d'une classe incroyable, Roger, parce que nous, il voulait nous enregistrer séparément. Et Roger a dit « Ah non, moi je fais mes scènes avec les enfants. » Moi j'étais le plus jeune, il y avait deux autres enfants qui faisaient mon frère et ma sœur, les trois petits chats. Et lui, Roquefort, il a voulu être avec nous. Il disait « Non, moi j'enregistre avec eux, ça va être plus sympa. » Et il était extraordinaire. C'était super de démarrer le doublage, t'imagines, en voyant quelqu'un comme ça travailler. Nous, il nous faisait marrer tout le temps en plus. Hein. Il faisait des tas de voix dans les couloirs pour nous amuser et tout ça. Il était génial.
Puis il faisait la voix de tous les dessins animés, les feuilletons, les béniles.
Lui, il pouvait faire tout seul un épisode entier d'un truc. Hein. Voilà. Et puis, on adorait le regarder bosser aussi. Tu apprends beaucoup en regardant les autres travailler.
Qu'est-ce que tu penses, à l'heure actuelle, de cette IA qui arrive et qui risque de tuer le métier?
J'en pense rien. Non, c'est pas que j'en pense rien. Alors, déjà, je veux dire, je suis pas contre l'IA. Hein, je veux dire, voilà, mais ça doit rester un outil. pourquoi faire des trucs qu'on sait faire super bien, je veux dire chanter, dessiner, faire de la musique, faire du doublage, on sait le faire super bien. Pourquoi est-ce qu'on irait le faire par une IA? On s'en fout. En plus, c'est pas écolo du tout. Ça va faire perdre du boulot à plein de gens, et pas que dans notre domaine à nous. Hein. Nous, on est une toute petite niche, bien que ça touche quand même déjà plusieurs dizaines de milliers de personnes. Hein. Donc, c'est nul. Enfin, voilà. On va laisser l'annonce passer.
La personne qui a perdu son porte-monnaie est priée de le ramener, s'il vous plaît.
C'est ça, oui. Le petit Rémo attend sa maman à la caisse centrale.
C'est con, j'étais orphelin.
Ah merde, pardon, oh, excuse-moi. La bourde. La grosse bourde. Non, mais bon, donc l'IA, non, mais il faut résister à ce truc-là. Il faut garder l'humanité. Déjà, voilà, il faut garder l'humanité là où elle peut être. Et je pense que... Tu vois, toi, moi, je me vois pas en train de faire écouter à mon petit-fils des contes, tu vois, enregistrés avec une IA. Enfin, c'est nul. C'est nul.
Bah déjà, la voix est pas la même. Ça fait vraiment un petit peu robotique. Et puis, ils ont essayé un truc de doublage de IA. C'est pas correct. Hein.
Et puis, je vais dire une chose, mais et c'est la même chose pour les musiciens, pour les illustrateurs, pour les traducteurs, les auteurs, etc. L'IA dans notre métier, c'est nul. Et en fait, souvent, ce qui fait nos originalités, c'est nos petits défauts. Et puis moi, j'ai très peur de la perte de savoir-faire. Dans notre métier, c'est du métier collectif, bah, tu sais bien. Hein, voilà. Moi, j'ai besoin d'un gesson, j'ai besoin du mixeur, j'ai besoin du bruiteur. Ils ont tous bossé avant que je vienne. Moi, je suis un de ceux qui bossent le moins sur un doublage. Il y a le mec qui a écrit, qui a détecté, qui a fait la rythmo, qui vient. Okay, il y a le chargé de prod qui s'est occupé que tout ça soit cohérent. Il y a le gars qui va mixer derrière. Si tu es sur un tournage, il y a le mec qui filme, qui monte. Enfin, on est plein de métiers différents pour une œuvre. Okay, tout ça, c'est du petit savoir-faire. Oui, des fois, on fait des trucs pas très glorieux.
Okay. Faut qu'on mange aussi.
Faut qu'on mange. Non, mais c'est ça, nous, en tant que voix. Moi, des fois, je fais les mecs qui cherchent de l'or, là, dans le Yukon, des trucs, c'est pas très glorieux. Mais si j'ai pas toute cette expérience-là, si tous les corps de métier de notre domaine n'ont pas toutes ces expériences-là, le jour où faut faire un gros film, le jour où tu as la pression, le jour où tu fais le dernier Pixar, le dernier Disney, le dernier Star Wars, machin, tu sais pas gérer. Tu peux pas le faire, en fait. Tu n'as pas, même en tant qu'ingé son, si on te dit, ah bah dis donc, tu vas mixer le dernier Pixar, vieux. Bah, si t'as pas fait tes heures de, tu vois, avoir encaissé un peu de métier, tu sais pas, tu sais plus le faire. Et l'IA, elle va remplacer tous ces petits trucs à deux balles. C'est ça qu'elle va remplacer le plus vite. Pour faire les gros films, c'est pas au point. Donc elle va remplacer tous les petits trucs. Ils vont gagner 3 francs 6 sous, ils vont économiser presque que dalle là-dessus, hein, en plus. Mais, voilà, sauf que c'est du savoir-faire. Et le jour où tout d'un coup, il faut faire un gros truc, bah, il n'y aura plus personne pour les faire. Et c'est là où la qualité baissera. Et c'est dommage. Voilà. Et ce que je trouve dingue, surtout, alors là, sur un plan plus général, c'est qu'on a l'expérience de tout ça. Il y a déjà eu des évolutions technologiques qui ont bouleversé nos sociétés. Et nous, notamment dans l'audiovisuel,
les effets spéciaux.
Le technologique a toujours eu un effet de dingue chez nous. Le CD à la place de la VHS, enfin, tout c'est le DVD, après le Blu-ray, tout numérisé alors qu'on était en analogique. Tout ça a toujours eu un impact dans notre métier. On le sait. Donc, on sait très bien qu'il faut garder la tête froide et pas foncer là-dedans. Il y a un autre truc en plus, c'est que, je veux dire, l'IA, si ça peut sauver des gens, notamment en médecine, on me dit ça, je trouve ça génial. Mais enfin, pour faire son starter pack à 2 balles pour le mettre sur Instagram et utiliser les litres d'eau que ça prend à faire, franchement, un peu de retenue, quoi, je trouve, c'est tout. Un petit peu de, voilà. Et puis, dire à tous ces gens qui vont perdre leur boulot, il y a des boulots qui ne sont pas très marrants à faire. C'est vrai que l'IA pourrait peut-être les remplacer, mais on fait quoi des gens? Il faut bien qu'ils bouffent, qu'ils fassent des trucs. Donc, non, mais moi, ce qui me tue, c'est qu'on a l'expérience de tout ça, en fait, et qu'on n'apprend pas de l'histoire. C'est dommage.
Je te remercie beaucoup. Une bonne journée à toi.
Bonne journée, bonne continuation.
Merci.
Allez, viens, je t'emmène au vin. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. m'appelles plus souvent.
Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Comment tu vas ?
Très bien, très bien.
Un peu chaud, non ?
Bah, chaud, ça va. Ça, c'est l'avantage des conventions au mois de décembre, c'est que la température est nettement inférieure par rapport à ce qu'on connaît en plein été, évidemment. Donc là, il fait respirable, c'est parfait.
Alors dis-moi, on est sur quel stand ici ?
Alors, nous sommes sur le stand de Ghostbusters Belgique.
Ah, explique-moi un peu. Tu chasses des fantômes ?
Alors, oui, on va dire que dans le virtuel, on chasse des fantômes, mais l'idée de Ghostbusters Belgique est de représenter la licence à travers différentes expériences interactives qu'on propose ici à nos visiteurs. Et donc, on essaye vraiment de faire connaître l'univers Ghostbusters à ceux qui ne l'ont pas connu lorsque c'est sorti parce qu'ils étaient tout simplement pas nés, ou de continuer à la faire vivre auprès des moins jeunes. Et on essaye vraiment de développer notre activité de plus en plus, mais elle n'a que pour but de faire connaître la franchise, et donc nous sommes le club officiel de Belgique reconnu par Sony.
Alors comment tu peux dire officiel ? C'est officiel de quoi ? C'est qui a décrété que c'était officiel ?
Alors il existe une entité qui s'appelle la Ghost Corp, donc la Ghost Corp qui est aux États-Unis, qui répertorie tous les fan clubs du monde entier, donc pas uniquement de Belgique, mais d'Europe et des États-Unis. Et donc il y a une application à faire si on veut faire partie et si on veut être reconnu en tant que franchise officielle. Et si on répond à certains critères, on peut intégrer cette fameuse Ghost Corp.
Et tu peux nous donner des exemples de ce qu'il faut faire pour pouvoir justement faire partie ?
Ben, c'est respecter certains critères au niveau déjà de la représentation personnelle, donc ça veut dire qu'au niveau des tenues, l'uniforme, respecter certains codes, donc des limites à ne pas franchir dans ce qu'on montre aux gens. Donc il faut vraiment toujours être basé sur quelque chose qui est connu dans la franchise, pas trop dévié. Et voilà, il faut se tenir à proposer toujours du contenu qualitatif, le plus varié possible, et on va gérer tout ça en bon père de famille, on va dire.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ici ce que tu fais comme activité ? Parce qu'il est grand ton stand, là, mine de rien.
Oui, le stand est assez grand. Donc, c'est vrai que nous, au plus de place on nous donne, au plus on s'étale, évidemment. Donc, on a vraiment beaucoup de choses à montrer. La configuration est presque à chaque fois différente en fonction de l'emplacement qu'on nous donne et de la taille. Ben, ici, on a misé un maximum de choses sur l'interactivité, donc où on va proposer des tests de perception extrasensorielle. Pour ceux qui ne comprennent pas directement ce que ça veut dire, rappelez-vous du film SOS Fantôme numéro 1 avec le test des cartes de Peter Venkman, qui monte des cartes et on doit essayer de deviner quelle est la carte qu'il tient en main. Si jamais on se trompe, on reçoit une décharge électrique. On reproduit exactement cette scène-là ici avec des vraies décharges électriques sur le stand de Ghostbusters Belgique.
Vous êtes mentaliste quoi ?
C'est le test de Zener, ça s'appelle le test de Zener, et donc on essaye de faire croire à nos visiteurs qu'ils sont mentalistes. Nous, on sait très bien qu'on ne l'est pas.
Bon, en fait, tant qu'il se trompe, il prend une décharge, au bout d'un moment, il va le trouver, il n'y a que 32 cartes.
Alors voilà, c'est même pire que ça, il n'y a que 5 cartes, c'est un jeu de cartes bien spécifique, mais nous, évidemment, on fait ça pour s'amuser, on ne se prend pas au sérieux, et nous, de ce côté-là de la table, on se marre bien, ouais.
T'imagines, même s'il a raison, tu l'électrocutes, c'est mon ex.
Voilà, on reçoit exactement ce genre de demande assez régulièrement, mais ça, on n'y répond pas, évidemment.
C'est pas dans la charte.
Nous sommes des professionnels.
C'est pas dans la charte.
C'est pas dans la charte, exactement.
Et je vous rappelle que tout ceci est fait par des professionnels. Ne le faites pas à la maison.
Exactement, exactement. Même nous, à la maison, on le fait pas. On ne le fait qu'en convention.
Donc après, tu as quoi comme autre activité ?
On a recréé une unité décontaminante. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on vient de faire qui est basée sur une boule de 22 graphes, donc qui vous charge en électricité statique, qui vous donne quelques effets sur vos vêtements et vos cheveux. Donc on fait passer ça pour une décontamination spectrale. Ça reste bien évidemment un effet physique. On a des cadres qui sont hantés, donc des cadres animés. Dès que vous passez devant, ils vous sautent un petit peu au visage. Tout ça est évidemment télécommandé et commandé par les opérateurs qui se trouvent derrière le stand. On a une représentation du containment unit. Donc le containment unit, rappelez-vous, c'est là où on mettait le piège pour décharger le fantôme qui est dans le piège. On a une représentation de ça qui fonctionne. On a le téléphone de la secrétaire qui malheureusement est hanté, donc il sonne tout seul et quand vous passez devant, il faut répondre, on vous parle. Enfin voilà, tout ce genre de choses-là qui va vraiment plonger le visiteur au cœur vraiment de ce qu'étaient les films à l'époque. C'est vraiment l'idée, c'est de vous faire revivre ces moments-là parce que pour la plupart, on n'a pas oublié ça. Même si c'était il y a très très longtemps, tout le monde connaît le logo Ghostbusters, tout le monde connaît la chanson Ghostbusters, tout le monde connaît ça, c'est universel. Et on essaye vraiment de faire perdurer ça le maximum possible.
Est-ce que vous avez eu l'idée de faire un petit peu des, avec tout ce que vous avez, de faire des capsules sur Internet ?
Alors oui, c'est plutôt faute de temps et faute de contenu approprié. Je vais dire qu'on ne s'est pas lancé dans ce genre de choses-là. C'est vrai qu'on pourrait faire des courtes vidéos explicatives ou récapitulatives de ce qu'est l'univers, mais il y en a déjà beaucoup, beaucoup. Et je vous avoue que je me sens mieux en live, en présentiel, on va dire, que derrière une caméra. Tout ça prend énormément de temps, donc on a tous un métier ici. C'est pas du tout notre activité principale, évidemment, donc nous faisons ça uniquement sur notre temps libre. Et rien que la conception du matériel, le développement, parce qu'il faut l'inventer, le fabriquer, tout ça prend énormément de temps, donc on laisse tomber, entre guillemets, à part une page Facebook, on laisse tomber tout ce qui est live vidéo, en tout cas pour le moment.
Alors justement, Facebook, c'est quoi la page Facebook ?
Ghostbusters Belgique, très simple, donc on nous trouve très très facilement en tapant Ghostbusters Belgique sur Facebook et vous aurez un aperçu de ce qu'on propose en convention et vous aurez même des images de ce qu'on fait ici pour l'instant ce week-end.
D'accord, ah ouais, même là vous faites tant de petites vidéos.
Il y a déjà des vidéos qui ont été tournées ce matin et des vidéos qui ont montré comment est-ce qu'on monte tout ça le vendredi parce que tout ça se prépare évidemment bien à l'avance, on n'arrive pas et on met pas les pieds sous la table. Donc il y a les camionnettes qui arrivent, qui déchargent tout, qui branchent. En rallonge électrique, je peux vous dire qu'il y a quelques mètres de câbles là évidemment pour faire fonctionner tout ça et tout ça doit être évidemment parfait dès le départ sans fausse note.
Alors qu'est-ce que vous faites comme haute manifestation si on veut vous avoir, vous proposez quoi, je sais pas, pour un mariage, pour une mairie, pour une autre convention comme ici, qu'est-ce que vous faites comme manifestation et à quoi vous répondez oui, sur quels critères et qu'est-ce que vous présentez?
Mais on fait majoritairement des conventions, hein, donc c'est clair que c'est ce genre d'activité-ci pour lesquelles on est le plus connu. Maintenant, on a déjà répondu à des demandes privées ou des demandes un petit peu particulières qui sont faites via l'adresse mail, où là, c'est parfois effectivement un mariage. Ça peut être un cinéma qui a besoin de nos services pour faire de l'animation. Donc on a déjà fait ce genre de prestations aussi, mais c'est vraiment au cas par cas. On étudie chaque demande pour voir ce qui peut coller le plus avec ce que nous, on est capable de faire.
Justement, tu disais l'adresse mail, par l'adresse mail. C'est quoi l'adresse mail ?
info@ghostbustersbelgique.be, puisque BE, Belgique.
Tout à fait. Voilà. Là, il y a tout plein de monde là sur le stand, mais vous êtes combien dans toute... C'est quoi ? C'est une asso ?
C'est une asso, ouais. Donc, on est ici, pour le moment, on compte 24 membres. Donc 24 membres qui ne sont pas là tout le temps. Donc on ne force pas tout le monde à participer à tous les événements évidemment, mais ça permet d'avoir un petit roulement et ça permet d'avoir toujours quelqu'un qui est disponible pour répondre à l'appel quand c'est nécessaire.
Vous n'êtes pas nombreux parce que 4 membres par personne.
Non, effectivement, de ce point de vue-là, on n'est pas vraiment nombreux. Non, mais c'est on a vraiment une famille qui grandit de plus en plus parce qu'on commence à se faire connaître et il y a beaucoup de passionnés qui aiment ce qu'on fait et qui aident au développement de nouvelles choses. Bon, ce qui est assez marrant, c'est de voir des jeunes qui ont moins de 22 ans, moins de 23 ans, qui viennent nous rejoindre parce qu'ils connaissent l'univers et qui connaissent le truc par cœur. Ça, c'est assez marrant à voir quand même.
Alors, tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait une Française qui est ici.
Oui.
Il y a combien de personnes non Belgium?
On a 3 Français du nord de la France.
D'accord. Hollande, Luxembourg?
Hollande, non. Luxembourg, ils ont leur propre club aussi. Donc, on les connaît très bien. Donc, les Hollandais, on les connaît très, très bien. Les Luxembourgeois, on les connaît très, très bien. Mais ils restent vraiment dans leur groupe qui est bien organisé, ce qui n'est pas toujours le cas de la France, qui est morcelée en différents groupes Ghostbusters. Et donc, ils ont préféré nous rejoindre parce qu'ils s'y sentaient mieux, sûrement. Et puis, c'est pas un secret. Hein. Les Français se sentent bien chez nous. Hein.
Tout à fait. Après, il y a un autre truc, c'est que si tu dis qu'il y en a plusieurs, est-ce qu'il y a plusieurs en France, plusieurs groupes qui sont reconnus ?
Il y a plusieurs groupes qui sont reconnus en France, oui. Ouais, parce que donc tout est parti d'un seul groupe qui existait au départ et puis ils font du très bon boulot aussi. Donc.
Après, il y a peut-être aussi le problème géographique. La Belgique est plus petite que la France. Oui, et donc, entre Marseille et Lille, il y a quand même plus de 1000 km. Là, si tu fais la panne à Rennes, enfin à Liège, il n'y a que 3 heures. Hein.
Ouais, c'est plus faisable en Belgique, évidemment, de n'avoir qu'une seule entité, ce qui est impossible en France. On a déjà eu plusieurs animations qu'on a organisées en France. Hein. Donc, il y a certaines personnes qui ont assisté à des événements qui se passaient en Belgique, qui ont vu ce qu'on faisait et qui voulaient absolument avoir la même chose pour une convention en France. Donc, on le fait assez régulièrement aussi. C'est juste que nous, on ne va pas aller proactivement chercher une présence en France. Si on nous demande, on vient, mais on ne va pas nous-mêmes proposer nos services puisque là, c'est censé être la division française qui s'en occupe.
Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier volontaire. Geste me ramène à tes lèvres ou à tes bras, à l'amour avec toi. Quand je t'aime, il est minuit, midi, un enfer au paradis, n'importe où, mais ensemble. Quand je t'aime, je ne sais plus si je me suis.
Est-ce que tu sais combien il y a de véhicules ici en Europe par rapport à Ghostbuster? Parce que tu me dis que tout le monde n'a pas un véhicule.
Ouais, des véhicules, alors il y a plusieurs modèles. Hein. Je veux dire qu'un véhicule tip-top, le modèle qu'il faut.
Ah, le vrai quoi.
Je pense qu'il n'y en a que 2 ici en Europe. Maintenant, il y a des répliques qui sont très très proches, donc oui, il faut vraiment un œil très averti pour voir la différence. Là, il commence à y en avoir quelques-uns parce que, évidemment, Il y en a beaucoup qui ont compris que c'était rentable d'avoir un véhicule comme ça et de pouvoir le louer sur des événements. Ça devient très populaire, tout ce qui est convention, etc. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de véhicules type SOS Fantôme. Et donc, je pense qu'il doit y en avoir une dizaine en Europe qui sont prêts à louer le véhicule pour des conventions.
Alors, qui a eu l'idée ici en Belgique de créer justement cet assaut ? C'est toi ?
Alors, c'est pas moi. Non, moi, je suis arrivé beaucoup plus tard dans le groupe. Le groupe, il existe depuis 2010. Moi, je suis arrivé dans le groupe en 2016 et j'ai repris la direction du groupe en 2020, je dirais, un peu proche du Covid. Mais ce n'était pas moi qui ai créé ça. Donc, à la base, c'était simplement deux amis qui avaient un coin de table dans une petite convention très, très locale, on va dire, qui exposaient des choses qui étaient en rapport avec le film, mais même pas encore des props, donc même pas encore d'accessoires ni rien du tout. C'était des images, c'était le fait de parler avec certaines personnes qui leur ont donné l'idée de faire plus, et puis plus, et puis plus, et puis plus. Et quand moi, je suis arrivé, ayant une formation en électronique, j'ai poussé le curseur bien plus loin, en fait, justement en proposant des expériences interactives et en obligeant, entre guillemets, les gens à venir nous voir tellement ils étaient intrigués. Donc, le côté interactif, c'est moi qui l'ai apporté, mais c'est pas moi qui ai eu l'idée de Ghostbusters Belgique, en tout cas.
D'accord, te fâche pas. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait un truc où les gens, ils arrivaient, puis après, ils avaient les cheveux un peu ébouriflés.
Oui, c'est ça, oui, c'est le principe de la boule Van de Graaff. Donc, pour ceux qui se rappellent de leur expérience en physique de l'école, c'était la fameuse boule sur laquelle vous apposez les deux mains, une courroie qui tourne à l'intérieur et qui vous charge d'électricité statique. Donc, je ne vais pas vous proposer le test, hein, parce que sinon on va être embêté.
On va avoir du mal.
Voilà. Mais oui, ça c'est une nouveauté qu'on propose et c'est assez marrant parce que ça amuse toujours les gamins. De nouveau, l'idée de ça, c'est simplement d'attirer l'attention de quelqu'un, même de quelqu'un de très très jeune, parce qu'il va vouloir essayer, alors que ça n'a aucun rapport à la base avec Ghostbusters, mais ça lui permet du coup de s'intéresser à tout ce que nous on fait et le tour est joué.
Parce que moi, ça me fait plus penser à nom de Zeus.
C'est ça, mais attention que les univers ne sont pas très loin les uns des autres, hein, donc voilà. Tout le monde connaît aussi la franchise Retour vers le futur et effectivement, tout ce qui parle de science peut être lié à Ghostbusters d'une manière ou d'une autre et c'est là-dessus qu'on joue un petit peu, évidemment.
D'accord. Ben, merci à toi de m'avoir donné du temps.
Mais avec grand plaisir et j'en donnerai plus s'il le fallait, donc il n'y a pas de souci. Avec grand, grand plaisir.
Et est-ce que tu peux me rappeler l'adresse internet, le Facebook, l'adresse postale, si on a une ?
Alors, ben, le plus simple, c'est Facebook. Donc, si vous cherchez Ghostbusters Belgique sur Facebook, vous tomberez directement sur nous. Si vous tapez l'adresse internet www.ghostbustersbelgique.be, vous tombez sur la page Facebook. Et si vous voulez nous envoyer un mail, c'est info@ghostbustersbelgique.be.
Voilà, ben, vous savez tout. Là, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein.
Exactement. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir.
Merci à toi, merci à ton équipe, et puis ben, amusez-vous encore sur les deux jours, là, et puis un gros merde.
Merci beaucoup.
Les auditeurs, on est au festival Winter Geek de la Louvière en Belgique. Et je suis en présence d'Harry. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est quoi ton nom ?
Alors, mon nom complet, c'est Harry Migigawa. Et donc, je suis auteur-illustrateur. Donc, j'expose mon roman. Donc, le titre, c'est The Arsonic Club. Donc, c'est un thriller qui est publié par les éditions Panthère. Et donc, c'est un roman qui va aborder plusieurs thématiques, notamment le harcèlement scolaire. En fait, au début de l'histoire, le personnage principal subit le harcèlement de la part de ses camarades de classe, qui va se passer beaucoup en ligne et aller vraiment crescendo, jusqu'au jour où l'un des étudiants est retrouvé mort par les autres. Mais contrairement aux apparences, ça ne va pas être le harcelé, mais le harceleur qui a été tué. Et donc, là, les autres étudiants vont essayer de mener leur propre enquête, comprendre le pourquoi du comment, et ils vont très vite réaliser que non seulement le meurtrier est dans la classe, mais en plus de ça, il va continuer à éliminer les harceleurs les uns après les autres. Donc c'est vraiment un roman plein de suspense, plein de rebondissements, mais qui en plus de ça aborde des thématiques très actuelles.
Petite question indiscrète, après tu réponds pas. Est-ce que tu étais concerné par le harcèlement ?
Alors du coup, j'ai eu la première idée de ce roman, c'était vraiment... j'avais 17 ans, et donc j'étais aussi... j'avais le même âge que les personnages, et je me sentais pas vraiment... On va pas dire que j'avais du harcèlement comme ce qui est subi ici, mais j'avais vraiment un certain mal-être, je me sentais pas à ma place dans le monde, dans mon école, et donc c'est vraiment né de ce mal-être-là, en fait.
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu dis, je vais le mettre sur papier, je vais l'écrire, et alors c'est peut-être juste, parce que j'ai ma fille qui fait pareil, qui écrit un bouquin, par contre, elle le garde pour elle, c'est sur son ordinateur, machin. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, on va l'écrire, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, eh ben, il y a une édition ? C'est toi qui l'as cherché, ou on est venu te chercher ?
Du coup, dans mon cas, ça s'est fait vraiment progressivement, donc à la base, je faisais surtout de l'illustration. Donc j'ai inventé mes personnages, puis au fur et à mesure, je les ai mis dans des petites scénettes. Et ça s'est vraiment fait progressivement, donc la création d'un vrai scénario, d'une vraie histoire, d'un vrai roman. Et alors c'est vrai qu'au début, c'est difficile de se juger en tant qu'artiste, est-ce que ça vaut quelque chose ou pas. Donc j'ai commencé par faire lire mon histoire à des amis, et ils ont vraiment adoré. Et donc là je me suis dit, ok, peut-être que ça vaut la peine d'être édité. Et donc c'est là, c'est moi qui ai démarché des maisons d'édition pour être publié. Donc j'ai fait ça il y a 2 ou 3 ans et là le livre il est sorti il y a 1 an.
Quoi le rapport soit ici avec ce monde féerique de super-héros, de bande dessinée, de dessins animés, de monde imaginaire en fait ? Parce que là t'es pas dans l'imaginaire, t'es vraiment dans le réel avec ton histoire.
Oui c'est ça, c'est vraiment dans le réel. Après il y a ce côté dessin, illustration qui est très d'inspiration manga Japon que j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment ce qui me raccroche à l'univers geek, on va dire. Après c'est vrai que c'est pas trop dans l'imaginaire, mais il y a beaucoup de personnes qui sont aussi à la recherche de ce genre d'histoire. Et donc le fait que je sois présent ici permet d'offrir aux visiteurs autre chose pour ceux qui auraient envie de lire du thriller ou des livres qui sont plus ancrés dans le réel.
Et toi, à la base, tu fais quoi par écrivain ? Tu faisais autre chose ? Tu étais étudiant ? Tu faisais quoi ?
Du coup, j'ai un métier à côté, mais c'est étonnant parce que je suis scientifique, donc je suis biologiste à la base.
Ah ouais, pas pareil ?
Pas du tout, c'est totalement un autre monde.
C'est de la biologie aussi, tu diras. Hein. Tu l'as disséqué, le mec. Hein.
D'une certaine manière, oui, il y a vraiment la démarche scientifique que j'applique au livre, mais oui, c'est intéressant d'avoir les deux côtés, ça m'ouvre à d'autres horizons, ça me donne une certaine curiosité que on n'a pas forcément en faisant que l'un ou que l'autre.
Puis on a fait un thriller, l'agresseur devient la victime, entre guillemets, et où est-ce que tu as été chercher ça ? C'est parce que tu as vu ça quelque part un jour, ou est-ce que c'est vraiment dans l'inconscient ? Est-ce que tout ce déroulement que tu as fait, est-ce que c'est aussi en lisant les faits divers, les choses comme ça ?
Donc c'est vraiment dans l'inconscient, je pense. Puis il y a un côté intéressant quand le harceleur se fait tuer, ça inverse la dynamique de groupe. Et donc je trouvais ça intéressant à développer dans une histoire. Après, dans ma démarche créative, j'ai vraiment commencé par créer les personnages. Puis j'avais pas vraiment d'idée précise d'où ça allait me mener. Je me suis vraiment laissé guider par mes personnages. Et ça a donné l'histoire que ça a donné.
Mais dans la liqueur bleue de ton regard qui change, les anges peu à peu aux démons se mélangent. No.
naufragée, corps et âme. Je le suis, je le sais, de la beauté. Comme si c'était la première fois. Voile des bateaux de toutes les couleurs s'étale sur les eaux, l'océan est en fleurs. Sur ton corps endormi, mes mains perdues d'avance remontent à l'infini comme un jeu d'impatience. Les démons ténébreux aux amours se mélangent. Naufragé, corps et âme, je le suis, je le sais. C'était la première fois. Dans une larme d'alcool, dans une larme de toi, tous les bateaux s'envolent, tous les avions se noient. Et sur tes jambes, perdu d'avance, monte vers l'inconnu comme un oiseau s'élance.
Alors moi, l'idée que l'agresseur se fasse punir, je suis totalement, j'adhère. Le seul truc maintenant, je me dis que la personne qui l'a fait, est-ce qu'à la fin on finit par savoir qui c'est, sans me dire qui c'est?
Oui, on sait tout à fait qui c'est.
Alors, est-ce que cette personne-là, du coup, elle est punie ou non?
Ça, je ne dirais pas, il faudra découvrir. Mais c'est vrai que j'explore beaucoup la morale. Même si c'est un harceleur, est-ce qu'il mérite de mourir? Donc, c'est vraiment développé, abordé dans le roman. Et finalement, est-ce qu'une personne qui tue ne devient pas pire qu'un harceleur? Donc, c'est vraiment plein de questions qui sont abordées tout au long du récit.
Voilà, c'est pour ça que je te posais la question. Parce que... on dit toujours que c'est pas bien de faire sa justice soi-même, mais il y a des moments où je suis désolé, quand on voit la justice dans n'importe quel pays qu'elle ne réagit pas, les gens finissent par faire justice eux-mêmes et aller jusqu'à l'extrême.
Oui, c'est vrai. Donc il y a quand même une morale pour éviter que les lecteurs aient envie de faire ce genre de choses. Mais...
Ils ont des films pour ça.
Hein. Oui. Mais c'est vrai que ça donne envie parfois de se faire justice soi-même, et je pense que c'est bien que du coup, j'explore ce genre de choses dans la fiction, comme ça, ça reste dans la fiction et ça ne touche pas au réel.
Alors, je vous préviens les auditeurs, ce bouquin, les acteurs qui sont dedans et celui qui l'a écrit sont faits par des professionnels, ne refaites pas la même chose.
Exactement, oui.
Est-ce que tu fais d'autres salons ou c'est ton premier?
Oui, je fais d'autres salons, pas forcément que des salons geeks. Je fais beaucoup de salons du livre plus généralistes. Donc, par exemple, il y a le salon du livre de Wallonie qui s'est fait il y a pas longtemps à Mons. Mais donc des marchés de Noël aussi. La semaine prochaine, je serai à Ciné. Donc, il y a vraiment moyen de me trouver un petit peu partout en Belgique et en France. Si pas sur mes réseaux sociaux, j'annonce souvent les salons où je vais, donc pour pouvoir me suivre très facilement.
Et justement, réseaux sociaux, on te retrouve où ?
Principalement Facebook, Instagram, et donc c'est simplement Harry Migigawa, donc A-R-I, et M-I-G-I-G-A-W-A pour me retrouver.
D'accord, et que Facebook ou t'as d'autres réseaux ?
J'ai un peu TikTok, mais j'y vais pas souvent.
Moi j'ai beaucoup de TikTok.
Mais sinon Instagram, c'est mon réseau social principal. Sinon il y a ma maison d'édition, donc les éditions Panthère.
Qui se trouve où ?
Elle est basée à Liège, donc c'est vraiment très, très local.
Pas l'adresse ?
www.edition-panthère.com. J'ai un second roman qui va sortir en septembre prochain.
Tu m'as devancé, c'était la deuxième question. Du coup, tu avais quelque chose dans le fond des tiroirs, tu viens de le dire. Et ce sera quoi? Tu as déjà le titre?
Le titre, c'est Carnage Paradise. Ça va aussi sortir chez les éditions Panthère. Ce sera aussi un thriller, mais un peu plus sombre. Et en gros, là, je vais vraiment aborder tout ce qui est traumatisme. Et alors, le personnage principal, il va être très particulier puisqu'il va avoir ce qu'on appelle le trouble dissociatif de l'identité. Et donc, c'est vraiment quelque chose que je vais développer, suivre les différentes identités de cette personne-là qui va essayer de survivre aux agresseurs en fait, de son enfance.
Alors, il a des troubles de personnalité, c'est un autiste ou c'est un schizophrène?
Non, du coup, ça, c'est totalement différent. En fait, c'est un trouble qui est très méconnu. Il faut imaginer que son esprit est un peu fragmenté entre plusieurs personnes qui agissent à tour de rôle. Et donc, c'est un peu ceux qui connaissent le film Split. Sauf que le film Split, ce que j'aime pas trop, c'est qu'il avait tendance à un peu diaboliser les gens qui ont ce trouble aussi. Et donc, moi, j'ai vraiment voulu prendre le pas de humaniser cette personne-là et de le mettre en personnage principal d'un roman où il va vraiment essayer de survivre à ses anciens agresseurs et de vraiment rendre le personnage très attachant.
Eh bien, je te remercie beaucoup.
Ben, merci pour l'interview, c'était avec plaisir.
Et moi aussi, un grand plaisir de découvrir. Rappelle-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Alors donc, le livre, si je ne suis pas en salon, il peut être commandé sur Amazon ou depuis n'importe quelle librairie en Europe francophone.
D'accord, donc le titre du livre et où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux?
Donc c'est The Arsenic Club et vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram principalement.
Ben super, merci à toi.
Ben merci à toi.
Dans son quartier du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et l'an 2000 voisine avec les maisons grises du vieux temps. Mais l'hiver vient d'éclater. Saint-Laurent est prisonnier d'un décembre qui va bien durer 6 mois. Quand les jours ressemblent nuit, sans éclaircie à espérer, qui peut croire que l'été nous reviendra? Première fois, je n'ai plus ni sa chaleur ni sa lumière.